pourquoi, un podcast qui explore l'actualité pour les enfants, mais pas que.
Et pourquoi ?
L'extrême droite est grande gagnante. Le Vlaams Belang remporte les élections dans le nord du pays, devenant deuxième parti de Flandre.
Ce soir, le constat est là. On est face à une forte poussée de l'extrême droite en Allemagne.
Nous, on ne souhaite gouverner ni avec l'extrême droite, ni l'extrême gauche.
L'extrême gauche et droite n'a jamais été une solution.
Et pourquoi est-ce qu'il y a des extrêmes en politique ?
Cette question, elle m'a été suggérée par les élèves de l'école Clairvivre à Evere, et elle n'est pas des plus faciles.
Ouais, c'est pas faux.
Pourquoi y a-t-il en politique des partis d'extrême gauche et d'extrême droite ? Et déjà, ça sert à quoi un parti ? C'est quoi la différence entre la gauche et la droite ? À partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'un parti est extrême ? Pas évident de s'y retrouver, d'autant que les partis entre eux ne sont déjà pas tous d'accord sur l'utilisation de ces mots-là. C'est pas grave, on va quand même essayer de s'y retrouver. Et commençons par les partis dont en général on connaît assez bien les différents noms.
Les écolos, MR.
Le Parti Socialiste.
Le Vlaams Belang.
CDV.
Défi.
La NVA.
Et il y a un parti pour les animaux aussi, mais je ne sais plus comment il s'appelle.
Oui, on s'y perd quand même parfois un peu. Il faut dire qu'en Belgique, on a 12 partis qui ont des députés au Parlement fédéral, à la Chambre. Certains sont très grands, d'autres beaucoup plus petits. Et puis il y a aussi tous les partis qui existent, mais qui n'ont pas d'élus au Parlement, parce qu'ils n'ont pas eu assez de voix pour ça aux élections. Mais c'est quoi, en fait, un parti ? Ça sert à quoi et ça fonctionne comment ? Pour le savoir, on est allé poser la question à Caroline Sagesser, qui suit la politique belge de très près, dans le centre de recherche où elle travaille, le CRISP.
Eh bien, les partis politiques rassemblent des personnes qui ont les mêmes idées sur la façon dont il faudrait organiser la société. Au tout début de la démocratie, lors des premières élections, on élisait des personnes. On votait pour monsieur un tel, je ne dirais pas pour madame un tel, parce qu'à l'époque, on votait uniquement pour des hommes, mais on votait pour des gens qu'on connaissait. Et puis, graduellement, les gens élus se sont retrouvés par affinité politique, c'est-à-dire qu'ils pensaient la même chose sur ce qu'il convenait de faire, et progressivement, au milieu du 19e siècle, dans différents pays européens, sont apparus des partis politiques, des organisations, pour regrouper les gens qui pensent de la même façon, et pour leur permettre aussi d'avoir plus de ressources pour faire campagne, pour se faire élire au sein d'un parti politique. On peut mettre de l'argent dans un pot commun pour organiser les campagnes électorales, pour financer les affiches, les spots publicitaires, etc.
Donc, un parti, c'est un ensemble de personnes qui pensent à peu près de la même manière sur la façon dont il faut gouverner, diriger le pays. Mais forcément, ce n'est pas possible que tout le monde pense exactement de la même manière sur tout. Et donc, il faut faire des compromis. Si on se met à plusieurs, on a plus de chances d'être un parti important et d'avoir du poids. Mais alors, il faut accepter aussi de s'associer avec des gens qui ont des idées assez proches, mais parfois quand même un peu différentes des nôtres. Il faut donc se mettre d'accord à l'intérieur du parti sur ce qu'on appelle la ligne du parti. Et là-dessus, le président ou la présidente de ce parti a forcément pas mal de pouvoir.
Oui, effectivement, en Belgique en particulier, le président d'un parti politique est quelqu'un qui a effectivement un grand pouvoir, puisque c'est lui qui va conduire les négociations au nom de son parti. C'est lui qui va aussi choisir parmi les élus de son parti ou ses sympathisants les gens qui vont être nommés ministres. Néanmoins, le président du parti n'est pas seul. Il y a dans les partis un gouvernement de parti, on va dire un bureau politique qui réunit les membres les plus importants du parti et qui se concerte pour adopter la ligne du parti.
Dans certains partis, les membres ont beaucoup à dire, dans d'autres, beaucoup moins. Mais ça, on y reviendra. Maintenant qu'on y voit plus clair sur les partis, essayons de comprendre une autre notion dont on parle tout le temps. Pourquoi dit-on qu'il y a des partis de gauche et des partis de droite ? Pour y voir clair, on va commencer par rebobiner un peu l'histoire. On est en 1789, c'est la Révolution française. Ce moment où le peuple français va faire tomber un système où c'était le roi et quelques privilégiés qui avaient quasiment tous les pouvoirs. Et pour pouvoir donner le pouvoir au peuple, Un premier parlement va voir le jour, une assemblée nationale, avec les différents représentants des Français. Et c'est à ce moment-là que va se jouer pour la première fois en politique cette division entre une gauche et une droite.
Au mois d'août 1789, la première assemblée nationale qui a réuni les députés du peuple français s'est installée dans une salle et à un moment donné, lors d'un débat autour du sort qu'il fallait réserver au roi de France, à Louis XVI, eh bien il y avait des gens qui étaient plutôt partisans de lui conserver certains pouvoirs, d'autres qui voulaient les lui enlever et ceux qui étaient plutôt en faveur des pouvoirs du roi, ils se sont mis à la droite de la pièce et ceux qui étaient plutôt en faveur de donner plus de pouvoir au peuple et vraiment beaucoup moins au roi, ils se sont mis à la gauche. Et depuis cette époque-là, on a pris l'habitude, souvent mais pas toujours, dans les parlements, d'installer les représentants des partis plus conservateurs à droite et ceux des partis plus progressistes à gauche. Dans certaines assemblées, ça a perduré très longtemps. Dans d'autres, on a assigné les places sans plus distinguer dans l'hémicycle où les différents partis devaient se trouver. Mais l'expression « gauche et droite » est restée.
Bon, mais aujourd'hui, il n'y a plus de roi en France, le nôtre en Belgique n'a quasiment plus de pouvoir, et pourtant la notion de gauche et de droite est bien restée. Et quelqu'un qui connaît bien tout ça, c'est Bertrand Haine. Il est journaliste et spécialiste de la politique pour la RTBF. Et lui, il nous explique que cette différence entre la droite et la gauche depuis la Révolution française, elle s'est faite aussi sur les notions de liberté et d'égalité.
Ceux qui avaient des positions favorables à la liberté étaient classés à droite, et ceux qui avaient des positions favorables à l'égalité, à gauche. Alors la liberté, c'est quoi ? C'est la liberté de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. On pourrait dire ça comme ça, et en particulier, surtout au siècle passé, laisser les patrons gérer leur entreprise comme ils le voulaient. Et donc, ça veut dire qu'à droite, on fait confiance dans les individus. On évite de mettre trop de taxes, par exemple, parce qu'on estime que sinon on va plus avoir la liberté de dépenser notre argent comme on veut. À gauche, par contre, on estime que si on laisse faire tout ce qu'on veut aux gens, eh bien, la loi du plus fort va finir par s'imposer. Par exemple, c'est ce qui s'est passé au XIXe siècle, où les enfants, à partir de 8 ans, travaillaient dans beaucoup d'usines, notamment les usines textiles. C'est à ce moment-là que la gauche a dit « donc il faut que l'État impose des règles, en particulier aux patrons, mais pas que, impose des taxes, impose des limites ». Et ce débat, il existe toujours aujourd'hui, même s'il est beaucoup plus compliqué qu'avant. Il y a beaucoup plus de sujets qui sont venus se rajouter qu'au XIXe siècle, où en gros c'était les ouvriers opposés aux patrons. Mais ce clivage, donc cette différence de valeur entre la gauche et la droite, reste l'un des éléments les plus importants pour comprendre les oppositions entre les élus au Parlement.
Les libéraux veulent que la fiscalité arrête de pénaliser la classe moyenne et populaire. Car taxer plus, c'est chacun d'entre vous qui devrait payer.
Réduire la pauvreté, améliorer la santé de tous, et que l'on parle enfin du fond.
Et Caroline Sagesser, alors, comment est-ce qu'elle définit, elle, aujourd'hui, en 2020, la différence entre la gauche et la droite ?
Je pense qu'on peut parler de différence dans deux domaines, l'économie d'une part et les idées de l'autre. D'abord, en ce qui concerne l'économie, c'est-à-dire la richesse que produit un pays. La droite va plutôt penser qu'il faut aider les entreprises, les usines, les commerces, et leur permettre de développer leur activité et que c'est ça qui amène de la richesse dans le pays. La gauche va plutôt avoir tendance à s'occuper du sort des travailleurs qui travaillent dans ces usines, dans ces commerces, dans ces entreprises, et va vouloir que leur salaire soit augmenté, que ces travailleurs aient plus d'argent, de l'argent qu'ils vont ensuite dépenser, et la gauche va penser que c'est de cette façon-là qu'on va augmenter la richesse globale du pays. L'autre domaine, c'est celui des idées. Et parfois, les deux choses ne se recoupent pas totalement. Il y a une droite qui a des idées plus conservatrices, pour reprendre un mot qu'on utilisait plus autrefois, qui va par exemple plutôt défendre une conception traditionnelle de la famille, une famille qui est composée d'un homme et d'une femme avec des enfants. Alors que la gauche, elle, va avoir des idées plus modernes sur ces questions-là. Par exemple, l'idée que les couples composés de deux hommes ou de deux femmes peuvent se marier, peuvent avoir des enfants, ça c'est plutôt une idée de gauche. Alors en Belgique, ça n'est pas toujours évident, il peut y avoir des partis qui sont plutôt de droite, sur le plan de l'économie, plus proche des entreprises, et qui sont tout à fait modernes sur des façons de penser la famille. Mais dans d'autres pays, comme par exemple la France, on s'aperçoit que les partis de droite, qui sont proches du monde de l'entreprise, du monde des décideurs, sont également plus proches d'une vision très traditionnelle de la société, qui défend cette idée, par exemple, d'une famille composée de papa, maman et les enfants.
Ce projet de loi, non seulement irresponsable mais funeste, organise la décadence de notre société.
Monsieur le député, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays.
Et puis, il faut bien dire aussi que tout ne peut pas être ramené en politique à cette opposition, à ce clivage entre une gauche et une droite.
Par exemple, le climat. C'est une question qui n'existait pas au XIXe siècle, dont on ne se préoccupait pas. Et aujourd'hui, il faut se préoccuper de cette question. Et donc, être de gauche et de droite ne signifie pas nécessairement grand-chose. Alors, ça peut jouer, mais beaucoup pensent que l'écologie, notamment, donc les questions climatiques, sont au-delà du clivage gauche-droite. Ce n'est pas toujours le cas. Ils se battent parfois pour savoir, par exemple, qui va payer une mesure écologique. Par exemple, isoler les maisons, qui doit payer ça. Mais souvent, il est possible qu'ils trouvent des accords entre eux sur cette question-là.
Mais venons-en alors maintenant à nos fameux extrêmes, ces partis qualifiés d'extrême droite et d'extrême gauche.
Moi, de ce que j'ai entendu, les deux extrêmes ne sont pas spécialement bien.
Mais pour moi, l'extrême gauche, c'est les gentils et l'extrême droite, c'est les méchants.
Je suis pas sûre, mais l'extrême gauche, c'est pas les communistes.
C'est un peu bizarre, mais pourquoi on les appelle les extrêmes gauches et les extrêmes droites ?
Eh bien ça, ce n'est pas la question la plus simple. Surtout qu'aucun parti ne se définit lui-même comme étant extrême. Ce sont plutôt les autres partis, ou bien alors les spécialistes ou les journalistes qui vont lui coller cette étiquette. Alors Bertrand Haine, pourquoi dit-on de certains partis qu'ils sont extrêmes ?
Alors les partis qu'on appelle extrêmes, ce sont des partis qui refusent les règles de base de la politique. Alors, si je prends le cas d'une cour de récréation, les partis, ce seraient des groupes d'enfants qui ont plus ou moins les mêmes jeux, c'est pour ça, ou le même âge, et donc ils jouent entre eux. Et évidemment, ils rencontrent les autres élèves dans la cour de récréation, ils se disputent parfois, mais ils acceptent les règles. Et puis, il y a des partis qui sont prêts à utiliser la violence, par exemple, dans la cour de récréation, pour avoir la cour pour eux tout seuls. On pourrait dire ça comme ça. Et donc, forcément, les autres groupes d'enfants, les autres partis, ils qualifient, ils appellent ce parti-là qui veut la cour pour lui tout seul, de parti extrême. En l'occurrence, souvent, de parti d'extrême droite. Mais la plupart de ces partis dits extrêmes ne veulent pas qu'on les appelle comme ça. Ça veut donc dire que c'est une appellation qu'ils refusent. Ils refusent de se qualifier eux-mêmes d'extrême droite. Alors, notamment ceux qui travaillent dans les universités, les professeurs, etc., essayent de donner un petit peu de sens à ce terme d'extrême. Et ce qu'on retrouve souvent, c'est l'utilisation de la violence. Un parti, ça existe par exemple en Hongrie, qui a des milices privées, c'est-à-dire des soldats qui travaillent pour lui et qui sont prêts à semer la terreur dans les rues. C'est arrivé aussi en Allemagne avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Ça, c'est clairement qualifié d'extrême. Aujourd'hui, les politologues, donc les professeurs d'université, les journalistes, ceux qui regardent la vie politique, sont d'accord de dire qu'il y a un parti d'extrême droite qui est évident, qui a des élus en tout cas en Belgique, c'est le Vlaams Belang, parce que son programme prévoit qu'une partie de la population n'aurait plus les mêmes droits. En l'occurrence, les immigrés, les francophones aussi, au sein de la Belgique, n'auraient sans doute plus les mêmes droits qu'aujourd'hui. Et cette volonté de faire de la politique sans une partie de la population, ou en rejetant une partie de la population, eh bien ça peut être qualifié d'extrême.
Ok, mais là on a surtout parlé de l'extrême droite avec Bertrand Haine. Or, on a vu que la gauche et la droite, ce ne sont pas les mêmes visions de la société. Du coup, on imagine que extrême gauche et extrême droite, ça ne peut pas désigner la même chose.
Le projet est radicalement différent, parce que l'extrême gauche vise le bonheur de l'humanité entière, alors que l'extrême droite vise des privilèges pour une petite caste à l'intérieur de l'humanité.
Caroline Sagesser.
Ceci posé, l'un comme l'autre, l'une comme l'autre, l'extrême gauche comme l'extrême droite, sont prêtes à recourir à des mesures très autoritaires pour permettre l'arrivée de ce monde idéal auquel elles aspirent. L'une comme l'autre pense en quelque sorte que la fin vaut les moyens et qu'on peut donc mettre entre parenthèses temporairement les libertés de chacun afin d'œuvrer à la réalisation d'un avenir meilleur pour tout le monde. Tout le monde sachant bien que ce tout le monde n'est pas le même tout le monde pour l'extrême gauche que pour l'extrême droite. L'extrême gauche n'est pas nationaliste. L'extrême gauche pense que tous les êtres humains de la planète sont égaux, donc elle cherche un monde meilleur pour tout le monde, alors que l'extrême droite ne se soucie, comme je l'ai dit, que d'un petit groupe de personnes, donc elle ne veut de nouvelle société qu'au bénéfice d'un petit groupe.
Et dans l'histoire, quand l'extrême droite ou l'extrême gauche ont pris le pouvoir pour elles toutes seules, ça a souvent très mal tourné. Des millions de morts sous Hitler et le régime nazi en Allemagne, des millions de morts aussi sous le régime communiste de Staline en Union soviétique. Mais revenons au présent. Aujourd'hui, en Belgique, Bertrand Hen le disait, il y a au Parlement un parti clairement considéré comme d'extrême droite, c'est le Vlaams Belang. Il a déjà été condamné dans le passé pour racisme et il a dans ses membres des gens qui n'hésitent pas à utiliser la violence pour faire passer leurs idées. Mais à gauche alors ? Il y a une question que forcément on se pose.
Est-ce que le PTB, on peut dire que c'est l'extrême gauche ?
Alors certains le pensent, mais c'est beaucoup plus compliqué de qualifier d'extrême le PTB.
Bertrand Hen.
Pourquoi c'est plus compliqué si on reprend la cour de récréation ? Eh bien, le PTB n'est pas violent. Il n'y a pas de milice au PTB, par exemple, et ils n'ont pas la volonté d'exclure de la cour de récréation les autres élèves, ou une partie des autres élèves. Donc, c'est difficile de les qualifier, comme on le fait pour le Vlaams Belang, d'extrême, en l'occurrence d'extrême gauche. Par contre, on peut sans doute parler de gauche radicale. Radicale, c'est un mot qui est un mot frère du mot racine. C'est-à-dire qu'on veut aller à la racine des choses. On veut retourner à la base de ce qu'est un parti de gauche, et notamment en mettant une égalité très forte entre les gens. Par exemple, entre un patron et un ouvrier, eh bien pour le PTB, il faudrait presque qu'il gagne la même chose. Ça voudrait dire que pour faire ces mesures-là, le PTB devrait prendre des mesures très dures. Par exemple, taxer énormément certains. Par exemple, devenir propriétaire de certaines entreprises. C'est ce qu'il propose. Et ça, c'est pour une partie de la population, se voir ôter certaines libertés. Notamment la liberté d'entreprendre, de faire son entreprise, d'engager qui on veut, de licencier quelqu'un si on estime qu'on n'en a plus besoin. Eh bien, tout ça, le PTB, par exemple, le licenciement, à terme, il aimerait bien le supprimer. Donc ça veut dire que certains se sentent quand même en difficulté face à certaines libertés. Et donc, c'est pour ça que le PTB peut être qualifié de radical, en tout cas un parti en rupture avec ce que les autres partis, de gauche ou de droite, proposent généralement comme solution.
Nos électeurs, ils nous ont dit on veut une rupture à gauche.
Puis il y a un dernier élément sur le PTB qui en fait un parti différent des autres, c'est qu'il utilise parfois, pas tout le temps, mais parfois, un langage qu'on peut appeler populiste. C'est-à-dire qu'il oppose le peuple, ou ce qu'il appelle le peuple, mais c'est très difficile à définir, les gens et les politiciens, qui seraient tous, sauf eux, corrompus, ou en tout cas gagneraient trop d'argent, et ces politiciens seraient coupés du peuple, que eux connaîtraient mieux que les autres.
Les gens en ont marre, et ils comptent voir aujourd'hui un grand changement dans la rue, mais aussi dans ce Parlement.
Et ce type de langage, qui oppose de manière très simpliste les gens et les politiciens, c'est ce qu'on peut appeler le populisme. Pour ces raisons-là, on ne peut pas dire que le PTB est un parti extrême, mais c'est un parti différent des autres, un parti en rupture.
Reste alors ma dernière question. Pourquoi est-ce que ces partis extrêmes ou en rupture ont particulièrement beaucoup de succès en ce moment chez nous, en Belgique ?
Je pense qu'il y a chez beaucoup d'électeurs une forme de découragement parce qu'ils s'aperçoivent que leur vote ne change pas grand-chose. Et c'est sans doute particulièrement vrai dans un pays comme la Belgique où il est très compliqué de former un gouvernement. Il y a la gauche et la droite, bien sûr, il y a aussi d'autres tendances, par exemple les partis écologistes. Et en plus, en Belgique, il y a des partis flamands et il y a des partis francophones. Donc il y a beaucoup de monde toujours autour de la table. Comme vous le savez, ça prend de plus en plus longtemps de former un gouvernement. Et au final, le résultat peut être très décevant puisqu'on a dû faire un compromis un peu entre toutes les propositions des partis politiques. Et donc l'électeur va être déçu. Et c'est sans doute la déception face à des gouvernements qui n'appliquent jamais totalement le programme d'un parti qui peut conduire les électeurs à choisir plutôt des partis, des programmes plus radicaux dont ils ont l'impression qu'ils vont, eux, pouvoir changer les choses.
Alors, est-ce que ce vote radical ou extrémiste est la solution pour faire changer tout ça ? Chaque citoyen de plus de 18 ans a le droit de choisir librement pour qui il vote. Mais attention, dans l'histoire, certains ont choisi librement des politiques qui finalement les ont privés de la liberté de choisir. Des démocraties se sont parfois transformées en dictatures sans que la population s'en rende vraiment compte au départ. Bref, il vaut mieux toujours ouvrir l'œil et essayer de bien comprendre les enjeux avant de se prononcer. Et toi là, qui nous écoutes, tu en penses quoi ? Et pourquoi ? Un podcast écrit par Arnaud Reussen, réalisé par Jérémy Boquet, avec à la coordination Pauline Sève. Merci aux élèves de l'école Claire Vivre à Evere de nous avoir accueillis pour cet épisode.